Je ne sais pas si vous avez suivi les journées des historiens de Blois. Extrêmement intéressantes. Et la thématique était Orient-Occident, la rencontre. Et en fait, deux écoles se sont affrontées. Et l'une, la plus novatrice, était incarnée par un historien d'origine indienne et qui est professeur à l'Université de Californie à Los Angeles. Sunjay Subramanyam. Et il a fait remarquer quelque chose de très banal, mais à ce point banal, justement, que tout le monde résistait devant l'évidence. À savoir que, quand on parle d'Orient et d'Occident et des rencontres historiques de l'histoire de l'Orient, on s'aperçoit d'une part qu'elle a été faite par l'Occident, mais très peu par les Orientaux. Et qu'ensuite, le mot « Orient » lui-même est une invention de l'Occident. Alors, ce petit exemple, pour lequel d'ailleurs on pourrait avoir pas mal de développement, il faudrait des séminaires entiers. D'ailleurs, je vous signale qu'à la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord, il va y avoir un séminaire très intéressant qui va être ouvert par un spécialiste du monde kurde, sur l'oppression linguistique des Kurdes de Turquie. Et on va s'apercevoir que l'une des formes principales de l'eurocentrisme ou de l'ethnocentrisme, ou tout simplement de n'importe quel type de centrisme, c'est ce que l'on appelle d'un terme savant, et si je l'utilise, c'est pour vous montrer que c'est sérieux, n'est-ce pas ? L'ethnocentrisme nominal. C'est-à-dire que c'est le langage qui est le lieu par excellence de l'ethnocentrisme. Et c'est pour ça que Glissant en appelait non pas à une monolangue, mais à une diversité des langues. Or, nous simplifions toujours. Je prendrai un exemple simple. Si vous regardez la lune, un soir de pleine lune, elle vous paraît ronde. Si vous regardez le sol à vos pieds, c'est-à-dire la terre, elle vous paraît plate. Qui a raison ? Et de fait, fut un temps où on pensait que la terre était plate. Cela veut dire que on voit toujours midi à sa porte, on regarde toujours avec un microscope. Mais ça donne aussi la biologie moléculaire, qui est absolument indispensable. Et en même temps, on est tenté par des généralités. Et donc, ce que l'on refuse essentiellement, c'est la complexité. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un excellent documentaire sur Arte, sur l'origine de l'homme, de l'espèce humaine. Certains d'entre vous l'ont vu, n'est-ce pas ? Alors, c'est passionnant, c'est tout à fait passionnant, parce que ça montre bien que nous sommes encore aujourd'hui, donc au XXIe siècle, à l'ère d'une préscience ou d'une science préhistorique, et là je suis normatif, puisque je présuppose que la préhistoire, ça voulait dire l'analphabétisme, la non-science, etc., ce qui est faux, ce qui est faux. Bon, mais ça montre tout simplement que nous sommes à l'ère encore des apparences. On dira un blanc, un noir. Et vous savez qu'il y a eu une étude extrêmement intéressante faite à l'université de Campinas, au Brésil, justement sur l'étude du génome, puisque vous savez qu'au Brésil, il y a une diversité ethnique qui est fondée sur la chromatologie, c'est-à-dire il y a un nuancier de peau officiel, cela a été légiféré, et de telle sorte qu'on appartient à telle ou telle catégorie chromatique. Alors, les spécialistes brésiliens se sont intéressés au génome, c'est-à-dire non pas aux apparences, mais aux gènes. Et de fait, c'est la génétique qui montre que dans une population blanche, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gènes que l'on appellerait noirs, et que dans la population noire, enfin de couleur noire, parce que le noir est une couleur. Oui, enfin, ça se discute, hein. Eh bien, il y avait énormément aussi de gènes qui venaient de tas de populations diverses, etc. Or, c'est vrai que nous n'aimons pas la complexité. Et d'ailleurs, l'une des sciences les plus prometteuses aujourd'hui, c'est-à-dire en novembre ou en octobre 2011, eh bien, ce sont les sciences de la complexité, et on parle maintenant d'interdisciplinarité. La dernière livraison du Monde, avec son supplément sur l'éducation, dit « la meilleure formation que vous pouvez donner à vos enfants, maintenant, c'est l'interdisciplinarité ». Donc, X fait des études littéraires, et de fait, maintenant, on s'intéresse, on réinjecte de la philosophie ou des études littéraires chez les matheux, etc. Et on réinjecte, justement, des sciences chez les littéraires. Parce que là aussi, il y a... quand on parle d'eurocentrisme, je n'aime pas, comme je n'aime pas le mot métissage, je n'aime pas le mot tradition, je n'aime pas le mot rituel. D'ailleurs, j'ai bien vu qu'on appelait ça cérémonial. Hein, parce que, oui, le mot rituel, ça serait très intéressant. C'est un cas d'ethnocentrisme nominal qui nous vient des États-Unis, tout simplement. Bon. Alors, ne nous laissons pas emporter, mais revenons à des choses importantes. Si vous voulez, la question qui se pose dans la perception de la Lune est celle qui se pose devant la perception de n'importe quel type de phénomène humain. Il y a la question de qui perçoit, comment je perçois. Or, nous savons que nous percevons à partir de ce que nous avons appris à percevoir. C'est pour ça qu'un non-spécialiste de tel instrument de musique ne saura pas... voir la complexité des rythmes, des combinaisons, de la syntaxe. Et c'est John Blacking, le grand musicologue, ethnomusicologue anglais, britannique, je veux dire, ne faisons pas du francocentrisme, qui disait « mais la musique de Mozart est ethnique ». Non, je n'aime pas le mot « tradition », parce que quand on va à la Comédie-Française, il n'y a jamais sur les programmes... théâtre traditionnel français. Or, Racine, c'est du théâtre traditionnel français. Mon amie coréenne, qui travaille maintenant avec un metteur en scène français sur des classiques, Corneille, revient chaque fois affolée de son travail en me disant « comme ça peut être français, les Alexandrins, c'est tellement loin de moi et je ne comprends pas du tout comment ils travaillent ». Bon, mais on ne parle pas de théâtre traditionnel français. On ne parle pas de la tradition française, de l'alexandrin, de l'intellectualisme. Ou alors, on s'invente des traditions. Par exemple, on dira les Français sont cartésiens. Bien sûr, ce sont les gens qui ne connaissent pas Descartes qui disent que les Français sont cartésiens. Il suffit de les voir rouler sur les routes pour voir qu'ils ne sont pas du tout cartésiens. Il suffit de voir la mauvaise foi des débats politiques pour voir que le doute méthodique, ça n'existe pas en France, etc., etc. Et ensuite, on oublie une chose, c'est que Descartes a été interdit au XVIIe siècle. Et ensuite, qu'il n'était pas dualiste, il était trioliste. Bon, alors ça, vous voyez, on agit toujours par simplification. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ethnocentrisme nominal? C'est utiliser... ce que Lenclude appelait des mots « outils » et des mots « problèmes ». De fait, Lenclude a écrit quelque chose d'extrêmement intéressant sur la notion de tradition. La notion de tradition, c'est un mot « outil », c'est-à-dire que tout le monde comprend ou croit comprendre, mais c'est aussi un mot « problème ». Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot « tradition », alors... si on voit d'abord son écriture, il y a tradition avec un petit t et tradition avec un grand T. La charia, c'est la tradition avec un grand T. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble de codes, donc c'est codifié. Et vous savez que les codes, ils ont un commencement, ils ont une fin. Bon, mais le mot tradition, quand je vais chez mon boulanger, ça veut dire la baguette traditionnelle. Je vous recommande d'ailleurs certains boulangers qui vendent la baguette traditionnelle. Hein? Parce qu'ils vous vendent la baguette traditionnelle dans un petit étui en papier sur lequel il y a une loi C'est-à-dire que la tradition, ce n'est pas une loi du XVIIe siècle, c'est une loi récente qui vous dit qu'il y a telle farine, telle quantité de sel, tel ceci, tel levain, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a là une invention de la tradition, mais qui est un plus. Quand j'achète de la moutarde traditionnelle de Dijon, par exemple, je la paye plus cher. Bon. Alors, vous avez déjà, dans ces exemples, vous avez la confusion qui inquiète beaucoup les anthropologues, à juste titre, c'est la confusion entre le descriptif et le normatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand nous utilisons le langage, nous utilisons des termes qui sont censés décrire. Mais la plupart des termes qui sont censés décrire sont prescriptifs ou normatifs. Ensuite, ils sont approximatifs. Quand je dis bleu, par exemple, demandez à un peintre, mais un vrai peintre, hein, un peintre traditionnel, à l'ancienne, bon, et diplômé dans la tradition, eh bien, ou tout simplement aller chez Sennelier acheter des tubes de peinture, vous verrez que vous avez une vingtaine de bleus et que le bleu de Prusse n'a rien à voir avec le bleu outre-mer. Bon. Alors, où est le bleu ? Si vous demandez à un physicien, il va vous dire, bon, voilà, c'est une longueur d'onde et qui est dans une fourchette, etc., etc. Or, les relations humaines sont fondées sur le malentendu, sur la simplification, pour diverses raisons. Pour plusieurs raisons. D'une part, on ne s'intéresse pas tellement à ce que les gens disent, on s'intéresse beaucoup à ce que l'on dit. Et très souvent, ce que l'on dit, on le dit sans réfléchir. Parce que s'il fallait réfléchir, eh bien, on ne passerait jamais à la télévision, parce que la télévision, le temps, c'est de l'argent, il faut parler sans s'arrêter. Et quand on parle sans s'arrêter, comme je fais maintenant, soit on sait par cœur, et de fait, là, je vous sors un certain nombre de séminaires et de cours que, bon, c'est mon métier, tout de même, je suis émérite, j'ai un certain âge, je connais la chose. Alors, vous voyez, si on commence à s'interroger, d'abord, on garde le silence. Et le silence est une qualité. Et attention, dans certaines cultures, par exemple au Japon, pour les musiciens, hein, le silence, c'est tellement important qu'avant un concert, eh bien, la salle devient totalement silencieuse. Alors que, quand vous voyez, par exemple, à l'opéra, l'orchestre qui commence l'ouverture, c'est fracassant. Pourquoi ? Parce que c'est fait pour faire taire les gens qui flirtent dans leur baignoire. Hein ? C'est pour faire taire tous les bavards, c'est pour faire taire les gens qui arrivent en retard, mais ils sont tellement bien habillés que, bon, tout le monde les regarde, mais l'orchestre est tellement fort que ça impose, non pas le silence, ça impose la musique. La musique doit se défendre. D'ailleurs, vous savez, ça c'est toute l'histoire du théâtre français. Le théâtre français, tout de même, était extrêmement encombré, parce qu'il y avait non seulement les Alexandrins, qu'on n'écoutait pas, parce que les aristocrates et les riches étaient sur la scène. Et les acteurs et les actrices devaient se frayer chemin parmi eux. Et c'est pour une histoire d'amour, d'ailleurs, une jeune actrice de 18 ans, qui est morte à 19, d'ailleurs, qui avait un amant du côté de l'Aude, qu'elle avait pris, mais il était riche, qui lui avait dit « Je ne peux pas jouer », d'autant qu'on jouait en costume d'époque, et c'était des amants qui payaient, d'ailleurs, les costumes très riches, et elle était encombrée par tous ces gens qui blavardaient, et donc les Alexandrins, ce n'était pas du tout comme chez Éric Vignier, où la salle doit, ou même en classe de seconde, où il faut faire silence pour écouter le bronze des vers. Ah, le bronze des vers. Et donc, le riche amant a dit, d'accord, on va débarrasser la scène, mais il va falloir payer. Et parce que tous ces gens qui étaient sur la scène, eh bien, ils payaient. Il voulait, pour être là, parce que pour être vu, n'est-ce pas ? Et alors, c'est ainsi que pour une histoire, en fait, d'amour, et amour est un euphémisme, pour une histoire d'argent, eh bien, une forme esthétique a pris forme, et c'est ce petit détail, si vous voulez, qui est fondamental et qui ne se retrouve pas très souvent chez les historiographes du théâtre. Parce que la vie est faite de petits détails, comme quand tu nous as raconté ton éblouissement sur une plage, n'est-ce pas, quand tu les as vus danser pour la première fois. Bon, c'est un détail et fondamental. Mais nous sommes tellement pétris d'essentialisme et de généralité que ceci ne nous intéresse pas. Et on préfère réciter « Les vers de Racine sont frappés comme des médailles ». Bon. Alors, qu'ai-je oublié ? Mais d'ailleurs, je crois que c'est mon temps de parole qui est terminé pour le moment. Oui, je veux dire que, si vous voulez, nous sommes au cœur d'un problème fondamental. Ce qui domine aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui a dominé toujours, c'est la force. Mais on parle toujours de force, bien sûr, à cause des usines d'armement, hein, la force des canons, des canonnières, mais la force du langage. La force du langage. Mais dans quel terme allons-nous décrire ce que nous avons vu ? Dans quelle langue ? C'est un linguiste très intéressant, que Dieu ait son âme. Enfin, il était communiste, donc ce n'est pas Dieu, mais qui a son âme. Martinet. Qui disait, il racontait cette anecdote pour l'histoire de la linguistique, il a fallu un sacré courage pour que quelqu'un dise « Ces gens ne sont pas fous » qui appellent un cheval un « horse ».« Horse » en anglais. Vous voyez ? Parce que cela paraît incongru et on croit qu'avec un langage justement serait-il savant, on pourrait rendre compte d'une complexité qui ne relève pas culturellement, intellectuellement, de l'ère linguistique du chercheur. Alors, la solution, c'est pas du tout une langue universelle, parce que tout ce qui est universel, comme Carrefour ou Auchan, ou les grandes multinationales, ne crée que des clones, et les clones, c'est la fin de l'espèce humaine. La biodiversité est essentielle. C'est ce qu'on appelle la panmixie en génétique. Bon, qu'est-ce que c'est que la langue ? C'est une communauté qui, à partir d'une expérience réduite, a tenté de communiquer, de décrire, de transmettre. Une communauté. Or, il y a des milliers, des centaines de milliers de communautés qui ont peuplé la Terre. Et nous savons qu'aujourd'hui, la disparition des langues, c'est quelque chose de dramatique. Alors que l'on ne parle plus en termes normatifs de folklore et de tradition ou de métissage. Le mot métissage est vraiment horrible parce qu'il est normatif. Je crois l'avoir dit déjà dans cette salle parce que ça me paraît aberrant. On parle de métis quand des gens de couleurs différentes font un bébé. On ne parle pas de métis quand un Suédois épouse une Bretonne bretonnante. C'est incroyable ! C'est absurde ! Ça voudrait dire que nous sommes tous des peintres. Un peu ratés, je dois dire. Voilà. Alors, à propos de folklore, justement, là, je vais terminer. C'est la dernière phrase, donc ne t'inquiète pas trop. Il y a un très grand folkloriste américain qui s'appelle Richard Bowman, et qui est un homme remarquable et avec qui nous partageons en ethnocénologie beaucoup de points communs. Mais quand il vient en France ou quand les collègues français parlent de son travail, ils prennent soin de dire « Attention, le mot folkloriste et folklore n'a pas du tout le même sens » dans la langue anglaise et surtout la langue anglo-américaine, dans l'anglo-américain et dans la langue française. Si je me prétends folkloriste en France, je ne peux pas faire une carrière brillante et je doute fort que je devienne professeur émérite. Je resterai toujours assistant. Tu vois ? Mais aux États-Unis, folklore, c'est tout simplement le travail sur les pratiques vivantes. C'est pour ça que le terme même populaire ne veut rien dire, car le terme populaire est un terme normatif, mais qui renvoie à un certain type de société. Quelle société ? Quand une étudiante chinoise vient et me dit « je vais travailler sur les formes populaires taïwanaises » ou « chinoises », je dis « mais quelle est ?» D'abord, commencez par analyser la société. Et voyez si le terme « populaire » convient. Elle me dira « oui, mais il n'y a pas de terme en français ». Mais très bien. Est-ce qu'il y a un terme en chinois ? Oui. Eh bien, mettez-le. Mais elle ne vendra pas. Elle ne vendra pas sa thèse, elle ne vendra pas son travail. Parce que tout le monde est accroché au terme populaire. Et si vous publiez un bouquin « Les pratiques populaires de la Martinique », »,« Les pratiques populaires vivantes et traditionnelles de la Martinique », ça fera un tabac. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut des colloques comme ça et des rencontres comme ça.